Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21. Et nous allons reprendre notre étude de ce livre. Et nous allons lire ce matin les versets 15 à 21. Apocalypse 21. Et nous lisons les versets 15 à 21. Et voici donc la parole de Dieu. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Nous reprenons donc notre étude, et pour nos amis qui nous rejoignent, ça va être difficile de résumer tout ce qu'on a déjà vu. On a commencé cette série en septembre 2014. Mais ce que nous avons vu, pour résumer très simplement, c'est que l'Apocalypse est divisé en 7 parties. Chaque partie couvre toute l'histoire de la venue du Seigneur Jésus-Christ, de sa mort et résurrection et ascension, jusqu'à son retour au jugement et à ce qui suit. Et au fur et à mesure qu'on avance, on a davantage de détails sur les choses de la fin. Au début, le Seigneur rappelle qu'il est au milieu des chandeliers, donc il est au milieu de son Église. Tout au long, il est avec son peuple. Et même si l'Église doit traverser des difficultés, même s'il y a de l'opposition, le Seigneur Jésus-Christ règne. Et il ne permet pas que son Église soit détruite, même si parfois elle doit passer par des moments difficiles. Mais nous sommes ici dans la 7e partie. L'histoire de l'humanité entre la venue de Christ et son retour se résume dans les premiers versets du chapitre 20, où Satan est lié pendant 1000 ans. Même si Satan reste un adversaire, il ne peut pas empêcher la progression de l'Évangile. Il ne peut pas empêcher l'Évangile de se répandre, alors qu'avant la venue de Christ, il n'y avait qu'une petite lumière qui était en Judée, parmi le peuple d'Israël. Aujourd'hui, l'Évangile est répandu de par le monde. Et Satan ne peut pas empêcher la progression de l'Évangile. Et ensuite, nous avons vu qu'il y a la dernière révolte, le jugement de Satan et de ceux qui le suivent. Et le reste de l'Apocalypse, chapitre 21 et une grande partie du chapitre 22, vont nous décrire la gloire de l'Église dans la présence de Dieu, la gloire de l'Église et du peuple de Dieu. Pour l'éternité. Et la dernière fois, nous avons vu que l'ange était venu chercher l'apôtre Jean et l'amener en esprit sur une montagne, non pas pour avoir une meilleure vue, mais parce que cette nouvelle Jérusalem est sur la montagne. Encore une fois, tout cela est un langage symbolique. Et d'autres personnes sont montées sur la montagne à l'invitation de Dieu. Moïse, par exemple, est monté sur la montagne. Là, Dieu lui a donné la loi, mais il lui a aussi donné le plan du tabernacle. Nous avons lu tout à l'heure, Ézéchiel a été transporté, encore une fois, en esprit, sur une montagne pour avoir cette vision du temple futur. Ézéchiel 40 que nous avons lu. Là, maintenant, c'est Jean qui est emmené en esprit sur une montagne pour recevoir cette dernière grande et merveilleuse révélation au sujet de l'Église, au sujet de la cité, de la ville de Dieu. Et cette expérience de Jean ressemble à celle d'Ézéchiel, dont nous avons lu tout à l'heure. Verset 15, Jean nous dit « Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. » Ce roseau d'or était cet instrument donc adapté pour l'œuvre et pour le service que l'ange allait accomplir, le service de Dieu. Il allait révéler non seulement les dimensions de la ville, mais il allait aussi faire le tour de ce royaume où Dieu allait exercer une protection sans faille. Et il va garder son peuple, et c'est ce que nous allons voir ce matin. L'ange ne montre pas la géographie physique, mais il montre la réalité spirituelle qui décrit le peuple de Dieu. Il y a une affirmation intéressante au verset 17 qui nous aide à comprendre ce passage. Jean nous dit « Il mesura la muraille et il trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette vision est tellement glorieuse que nous avons ici des mesures d'hommes que nous pouvons comprendre pour essayer de saisir quelque chose qui dépasse notre entendement. Mais pour avoir déjà une idée de la gloire de cette vision, nous avons ici des mesures d'hommes pour essayer de comprendre ce qui est représenté ici par tous ces symboles. Et la vision donc de cette nouvelle Jérusalem commence, nous l'avons vu, au verset 9. Elle va se terminer au chapitre 22, verset 5. Mais ici, donc, dans ces premiers versets, les versets 15 à 17, on voit la forme et les mesures de cette ville. Tout d'abord, donc, le premier point, la forme. Cette ville, Jean nous décrit, est carrée. Deuxième mot sur la feuille, pardon, j'ai oublié le premier, qui parle de la réalité. Deuxième mot sur la feuille. Cette ville est carrée. Sa longueur, verset 16 nous dit, est égale à sa largeur. Et là, nous avons donc une continuité avec ce qui a été donné à Moïse, avec le modèle que Moïse a pu voir. Le tabernacle était fait de rectangles et de carrés. Si on relit toute la description, non seulement du tabernacle, mais aussi des ustensiles, tout ce qu'il y avait dans le temple, tout était carré. L'autel des holocaustes était carré, Exode 38, verset 1. L'autel des parfums, Exode 30, verset 2, était carré. Le pectoral que devait porter le souverain sacrificateur était carré, Exode 28, verset 16. Et en Ézéchiel 40, quand on lit cette vision et puis les chapitres suivants, on voit que le temple est composé de structures qui sont carrées, qui sont rectangles, et que tout s'emboîte, tout est là. Et on peut aussi noter que les nombres qui sont utilisés pour décrire le peuple de Dieu sont les nombres qui sont carrés. 144, 12 fois 12, c'est carré. Alors que le nombre de la bête, c'est un nombre triangulaire, 666. La description de cette ville, donc, de cette nouvelle Jérusalem comme étant carrée, souligne cet équilibre parfait, un équilibre glorieux, une intégrité, une harmonie. D'ailleurs, même en français, on dit qu'une personne est carrée pour dire qu'elle est intègre, pour dire qu'elle est droite. Et voilà cette image, tout est à 90 degrés. Tout est droit, tout a sa place, tout est structuré. Il y a rien ne manque. Elle est carrée, elle est intègre, elle est parfaite. Mais mieux qu'un carré. Parce que la fin du verset 16 nous dit que cette ville est aussi décrite comme un cube. Troisième mot sur la feuille. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Et si on retourne à la description du tabernacle ou du temple, où est-ce qu'on a la structure qui ressemble, qui est un cube ? Il n'y a qu'une seule structure dans le tabernacle, qu'une seule structure, qu'un seul endroit dans le temple qui est cube, qui est un cube. C'est le lieu très saint, ou le saint des saints. Et on aurait pu, c'est le quatrième mot sur la feuille, pardon, le lieu très saint, 20 coudées en longueur, 20 coudées en largeur et 20 coudées en hauteur. C'est 1 Roi 6, verset 20. Et c'est là que demeurait la présence de Dieu. Du temps de Moïse, le tabernacle était, on pourrait dire, petit au milieu de cette foule de toutes les tribus qui étaient autour. On avait juste ce petit tabernacle qui était au milieu. Et dans ce tabernacle, il y avait encore un endroit où demeurait la présence de Dieu. Et une seule personne pouvait entrer dans ce lieu très saint, le souverain sacrificateur, et pas n'importe quel jour, il y avait un jour dans l'année, et pas n'importe comment, il devait venir avec le sang d'un sacrifice. Mais maintenant, à la fin de l'histoire, après le jugement, après le retour du Seigneur Jésus-Christ, après le jugement dernier, tout le peuple de Dieu habite dans le lieu très saint. Le saint des saints remplit la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Tout le peuple habite dans la gloire de Dieu tous les jours. Pas seulement un jour, mais tous les jours. Pas seulement une personne, tout le peuple de Dieu. Toute la ville, toute la nouvelle Jérusalem est un cube. Elle est le lieu très saint. Et tout le peuple de Dieu habite dans la présence de Dieu. Comme nous avons déjà vu au début, un peu plus tôt dans l'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Et nous sommes dans la présence, et nous serons dans la présence de Dieu tous les jours et pour l'éternité. La ville n'est pas simplement parfaite sur le plan architectural, mais elle est aussi l'habitation la plus intime de Dieu. Dieu est avec, au milieu de son peuple. C'est l'accomplissement de toutes les promesses. Dieu au milieu de son peuple. Voilà, la ville est un cube, elle est décrite comme un cube, elle est parfaite, tout est à sa place. Et Dieu est au milieu de son peuple. Voilà la forme de la ville, encore une fois, symbolique. Deuxièmement, les mesures de cette ville. Verset 16, il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. Et la première chose à souligner concernant les mesures, c'est que tout cela indique l'immensité, cinquième mot sur la feuille, l'immensité impressionnante de cette ville. Un stade, c'est environ 185 mètres. 12 000 stades, c'est à peu près 2300 kilomètres. Alors si on prend ces mesures littéralement, c'est une ville dont la superficie couvrirait une grande partie de la Méditerranée. Alors si vous voulez, chez vous, vous amuser à dessiner un carré, vous prenez une carte avec de la Méditerranée, un côté passe par la Jérusalem d'aujourd'hui, le sud passe par Alexandrie, l'ouest passe par Rome, et le nord passe par Minsk, donc au nord de l'Ukraine, dans la Biélorussie. Et ça, c'est qu'une ville. C'est à peu près 8 fois la superficie de la France. Et c'est qu'une ville. Et n'oublions pas que la description n'est pas simplement un carré, c'est un cube. Donc, il y a à peu près 2300 km par côté, mais aussi par hauteur. Donc ça dépasse de loin La tour Burj Khalifa, qui fait 820 mètres, 823 mètres. Là, on parle de quelque chose d'immense. Mais encore une fois, tout cela est symbolique, parce que cela nous est donné pour dire que cette ville, elle est faite pour accueillir un grand nombre de personnes. Nous avons déjà vu dans les chapitres précédents qu'il y a une foule innombrable, que personne ne pouvait nombrer, dénombrer, dans la présence de Dieu. Un commentateur résume en disant, étant donné que la ville couvre à peu près la même superficie que le monde grec du 1er siècle, cela suggère que la ville ne représente pas seulement les saints glorifiés d'Israël, mais les rachetés de toute nation et de tout peuple. Et pourquoi l'ange nous décrit-il cela ? Pour nous, quelque part, nous remettre en question quant à nos attentes au sujet de la progression de l'Évangile. Dieu ne va pas seulement sauver quelques personnes ici et là. Alors bien sûr, nous sommes peu nombreux ici. Mais nous ne devons pas perdre de vue que nous faisons partie d'un grand peuple, immense. Alors nous avons une certaine connaissance de cela avec nos différents contacts, en particulier avec les contacts en Afrique et en Australie, en Ukraine et aux États-Unis, en Angleterre. Mais parfois, on peut perdre cela de vue. N'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver un peuple, et c'est un peuple qui est décrit comme une foule innombrable, sixième mot sur la feuille, un très grand nombre. Et les dimensions donc, qui nous sont données sont là pour décrire cela. C'est une ville qui est capable d'accueillir un très grand nombre de personnes. La deuxième chose à souligner, après la taille immense, l'immensité de cette ville, c'est les nombres symboliques que nous avons ici, septième mot sur la feuille. Et nous avons vu que cela est vrai tout au long du livre. Tous les nombres qui sont là sont des nombres qui sont symboliques. Ici, chaque côté de la ville mesure 12 000 stades. 12, nous avons déjà vu, représente les 12 tribus d'Israël, les croyants de l'Ancien Testament. Mais cela représente aussi les 12 apôtres, les croyants du Nouveau Testament. Ce nombre indique non seulement que la ville abrite les croyants, mais que la ville est composée croyants, que cette ville est la totalité du peuple de Dieu. Non seulement elle abrite, mais elle est la totalité du peuple de Dieu. Un cube possède combien de côtés ? Les enfants, est-ce que vous vous rappelez ? Est-ce que vous savez ? Un cube, un carré possède 4 côtés. Un cube possède combien de côtés ? 12. 4 en haut, 4 en bas et 4 qui relient les 4 coins. Donc 12. Chaque côté mesure 12 000 stades. 12 par 12, 144 000. On a déjà vu ce nombre quelque part. C'est le nombre qui décrit la totalité du peuple de Dieu. C'est le nombre symbolique qui est utilisé pour décrire la totalité du peuple de Dieu, qui est là, représenté symboliquement dans un cube. On avait déjà vu, c'est 12 par 12, Ancien Testament, Nouveau Testament, et par 1000, 10 par 10 par 10, l'œuvre du Dieu trinitaire dans le salut du peuple de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est le peuple de Dieu, dans sa totalité, qui est là dans la gloire. Mais l'accent est aussi mis dans la mesure du mur. Nous avons cela au verset 17. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées. Une coudée vaut à peu près 55 cm. Donc la muraille, elle mesure un peu plus de 60 79 mètres de haut. Alors c'est haut. Mais quand en parallèle nous avons une ville qui mesure 2300 km de haut, la muraille c'est rien. Mais encore une fois, c'est le symbolisme qui compte. C'est le symbolisme qui compte. Nous avons ce mur qui entoure le peuple de Dieu, ce peuple issu de toute tribu, de tous les âges, de toute langue, de toute origine. Nous avons déjà vu que c'était étonnant de voir un mur autour de la ville alors que tous les ennemis ont été détruits. Mais encore une fois, c'est un symbole de la protection parfaite de Dieu. Cette protection totale, ce peuple est en sécurité parfaite, 8e mot sur la feuille. Personne ne peut entrer sans l'autorisation. Personne ne peut entrer autrement que par la foi en Jésus-Christ. Dans cette ville éternelle, dans cette nouvelle Jérusalem, tous les desseins de Dieu, de l'alliance de Dieu, sont accomplis. Toutes les promesses que nous avons dans la Bible pour le peuple de Dieu sont accomplies. Cette foule immense du peuple racheté de Dieu, qui vit dans la gloire, dans la présence de Dieu lui-même, cette foule fait l'expérience de la vie parfaite, telle que Dieu l'avait prévue. Nous avons vu la forme, nous avons vu les mesures. Troisième point, les matériaux. Les matériaux précieux qui sont utilisés pour la construction de cette ville. Jean nous les décrit en verset 18 et au début du verset 19. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Puis le verset 21 rajoute, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Alors ces versets, quand certaines personnes lisent ces versets, ils s'imaginent que voilà, cela veut dire que si nous honorons Dieu sur terre, Dieu va nous bénir d'une abondance de richesses terrestres dans la gloire. Mais il n'est pas ici question de richesses matérielles. Non, encore une fois, tout cela est un langage symbolique. Nous avons ici des descriptions de la gloire et de la beauté de Dieu qui se reflète dans la vie de ses enfants. Tout d'abord, l'or pur. L'or de la ville, nous est dit, est pur comme du verre. Or, il est transparent comme du verre. Or, il est physiquement impossible que l'or devienne transparent. Mais l'image, encore une fois ici, c'est que toute la ville reflète la lumière de la gloire de Dieu. L'éclat de la gloire de Dieu traverse toute la ville, traverse tous ses enfants. Et toute la ville reflète la gloire et la majesté de Dieu. Toute la vie, toutes les vies des enfants de Dieu reflètent cette gloire de manière parfaite. Un commentateur, William Hendrickson, fait remarquer la manière dont le Nouveau Testament parle de cela. Il parle de notre foi qui est plus pure, qui a plus de valeur que l'or périssable et qui doit être raffiné par les épreuves. Et il ajoute que l'or pur que nous avons ici souligne que la communion entre Dieu et son peuple est pure. Elle est sainte, elle est radieuse, elle est aimable et radieuse. La ville reflète, la ville brille comme de l'or pur, et l'or qui est comme du verre transparent. Ici, sur terre, Dieu doit nous éprouver pour enlever les impuretés de notre foi. Comme Pierre, l'apôtre Pierre, nous dit dans ce passage, 1 Pierre 1, versets 6 et 7, il dit, c'est là ce qui fait votre joie, que quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, Que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu doit éprouver notre foi sur terre pour enlever les impuretés. Mais lorsque Jean voit la ville, la nouvelle Jérusalem, il voit que notre foi est parfaite. Elle est pure, comme tout le reste d'ailleurs. Et tout fait briller, fait éclater la gloire de Dieu. Il y a aussi les pierres précieuses. Les fondements sont ornés de tous les types de joyaux. Jean en fait la liste. Il parle du jaspe, qui est une roche qui a 80% de quartz et qui est associée à d'autres minéraux qui vont apporter en fait différentes couleurs. On a le saphir et la chalcédoine qui sont bleus, l'émeraude et le chrysoprase qui sont vertes, l'onyx qui a des veines de couleurs qui sont brun-rouge, la sardoine et l'hyacinthe sont rouges, le chrysolite est doré, le béryl est un cristal qui est bleu clair, la topaze est généralement jaune et l'améthyste est violette. Et qu'est-ce qu'on a ? On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et en fait, cela simplement exprime que ce sont tous les attributs de Dieu, dixième mot sur la feuille, tous les attributs de Dieu qui se reflètent de manière magnifique dans la vie de chacun de ses enfants. On se rappelle au chapitre 4, quand Jean a été invité au ciel pour la première fois, qu'il a vu la splendeur de la gloire de Dieu qui était assis sur son trône. Et nous lisons au verset 3, « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. » Mais Jean, maintenant ici au chapitre 21, voit cette gloire de Dieu dépeinte avec les couleurs de l'arc-en-ciel qui se reflète dans la vie de ses enfants, de son peuple qui est glorifié dans cette nouvelle Jérusalem. Mais toute cette pierre précieuse, tout cet étalage de pierres précieuses nous décrivent plusieurs choses. Tout d'abord, elles nous décrivent l'unicité de chaque croyant. 11e mot sur la feuille. L'unicité. Si on lit bien, les pierres précieuses ne sont pas elles-mêmes les fondements, mais elles ornent les fondements. Et cela nous renvoie à ce que l'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre 2, verset 5, « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. La ville éternelle est faite des enfants de Dieu. » Et ils sont différents. Chaque pierre dans la construction est différente. Et la diversité de ces pierres nous parle des différentes combinaisons de la grâce de Dieu. De sorte que chaque croyant, chaque chrétien est unique. Et chacun apporte sa contribution à la ville éternelle, à la nouvelle Jérusalem. Chaque pierre vivante est unique. Chacun a sa place. Et chacun reflète la gloire de Dieu. Et c'est un encouragement pour nous. Aujourd'hui, oui, nous partageons la même foi. Oui, nous partageons la même expérience. Mais chacun est unique. Comme les flocons de neige. Il y a la même structure. Mais ensuite, chaque flocon est différent. Et c'est la même chose chez les croyants. Dieu nous a créés uniques et il œuvre par sa providence dans chacune de nos vies, d'une manière spéciale, d'une manière particulière. Personne ne peut prendre la place que Dieu a réservée pour nous dans cette ville. Nous sommes chacun et chacune uniques. Mais cela montre aussi, cela souligne le sacerdoce de chaque croyant. 12e mot sur la feuille. Et cela est mis en évidence par le fait que la liste de ces pierres précieuses correspond aux pierres précieuses qui ornaient le pectoral du souverain sacrificateur. Les habits d'Aaron, en fait, étaient, on pourrait dire, un tabernacle miniature. Il était une une miniature de une réplique de la miniature, en miniature de la gloire qu'il voyait dans le lieu très saint. Aaron portait un pectoral carré, donc sur lequel il y avait ces 12 pierres différentes, et ces 12 pierres qui représentaient le peuple de Dieu. Et Jean liste ces 12 pierres ici quand il parle des pierres précieuses qui ornent les fondations du mur autour de la Jérusalem céleste. Pour Aaron, les 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Chaque pierre était gravée du nom d'une tribu. Mais maintenant, les croyants qui étaient seulement représentés par ces pierres, Jean nous dit, ces croyants maintenant forment le lieu très saint. Ils forment ce cube qui est la ville éternelle, la nouvelle Jérusalem, dans laquelle Dieu lui-même habite. Ils ne sont pas seulement représentés. Ils ne sont plus représentés, ils forment la nouvelle Jérusalem. Quand Aaron rentrait dans le lieu très saint en portant ce pectoral, il représentait l'assemblée dans la présence de Dieu. Le peuple ne pouvait pas entrer dans ce lieu très saint à cause du péché. Aaron emmenait le peuple avec lui, de manière symbolique. Il était leur représentant. D'une manière, il représente le Seigneur Jésus-Christ qui est entré dans la présence de Dieu en représentant son peuple. Et il a fait l'expiation pour son peuple. Et Aaron, de même, était le représentant du peuple. Mais il y a autre chose qui se passe. Quand Aaron portait les 12 pierres sur son pectoral et qu'il entrait dans le lieu très saint, c'était aussi quelque part une promesse. Une promesse, une anticipation du jour qui doit encore venir, où tout le peuple de Dieu, habitera dans la présence même de Dieu. Ce ne sera pas seulement le souverain sacrificateur qui sera dans la présence de Dieu, ce sera tout le peuple qui sera dans la présence de Dieu. Et Jean voit l'accomplissement de cette promesse quand il nous décrit cela dans ce passage. Les fondements décrits ici portent les noms des 12 apôtres. Nous avons vu cela au verset 14. Cela nous montre que la promesse pour Israël est en fait réalisée par l'Église qui est fidèle à l'Évangile. Et le Seigneur Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui amène son peuple dans la présence de Dieu par son sacrifice sur la croix. Il a assuré la bénédiction de Dieu sur chacun de ses enfants. Et pour les croyants, j'en vois maintenant que le souverain sacrificateur est au milieu d'eux. Quand Aaron portait ses pierres dans la présence de Dieu, d'une certaine manière, Dieu se souvenait de son peuple. Mais nous avons mieux. Aujourd'hui, notre souverain sacrificateur est toujours dans la présence de Dieu. Et nous, un jour, nous allons le rejoindre. Et nous aussi, nous serons pour toujours dans la présence de Dieu. Une autre indication au sujet du sacerdoce de chaque croyant qui est appelé à louer et à servir Dieu, c'est cette affirmation au verset 21. « La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. » On a déjà dit que ça ne décrit pas les richesses matérielles, que tout cela était symbolique. Et c'est là que notre connaissance de l'Ancien Testament est importante. Dans 1 Roi chapitre 6, nous avons donc la construction du temple par Salomon. Et lorsque Salomon a construit le temple, et notamment le lieu saint et le lieu très saint, il les a fait recouvrir d'or. C'est-à-dire que le sol, le plancher, était recouvert d'or. Et l'image, le symbole ici, c'est que ceux qui marchent sur l'or sont ceux qui sont admis dans la présence de Dieu. 13e mot sur la feuille. Ce sont ceux qui sont admis dans la présence de Dieu en tant que sacrificateurs pour le servir, pour l'adorer. Et nous avons déjà vu que le Seigneur Jésus-Christ a déjà fait, a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et donc le privilège de marcher sur la place d'or, sur l'or, ce privilège appartient à ceux qui sont sacrificateurs pour Dieu. C'est-à-dire à chaque croyant qui est aussi co-héritier de Christ. La dignité royale de pouvoir marcher sur l'or appartient à ceux que le Seigneur Jésus-Christ a appelés pour former une nation sainte, une nation, un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Il y a l'or, il y a les pierres précieuses, mais il y a aussi troisièmement les perles. Verset 21, les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. Et dans l'ancien temps, les perles avaient beaucoup plus de valeur que les pierres précieuses. C'est un peu le contraire aujourd'hui. Mais dans l'ancien temps, les perles avaient beaucoup plus de valeur que les pierres précieuses. Jean nous dit que chaque porte était d'une seule perle. Les portes de perles, nous dit un commentateur, sont le symbole d'une beauté qui dépasse notre imagination et d'une richesse qui est inaccessible. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a utilisé une perle de grand prix dans une de ses paraboles pour décrire son royaume, pour décrire le salut. Vous vous rappelez de cette parabole, Matthieu 13, un marchand a trouvé une perle de très grand prix et à cause de sa valeur immense, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter cette perle, pour acheter cette perle d'une très grande valeur. Et il y a une connexion ici, puisque les perles permettent l'entrée dans la ville éternelle, la nouvelle Jérusalem, la ville du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas étonnant donc, que les portes soient décrites comme étant faites d'une seule perle. Et cela doit nous rappeler, cela doit souligner qu'il n'y a rien qui n'a plus de valeur à nos yeux, 14e mot sur la feuille. Il n'y a rien qui n'a plus de valeur à nos yeux, rien qui ne peut être plus glorieux à nos yeux que le salut que nous recevons par la foi en Jésus-Christ. C'est la perle du grand prix. Et c'est par cette perle que nous entrons. La porte est décrite comme une perle. Christ, nous dit un commentateur, Matthew Henry, il dit « Christ est la perle du grand prix et c'est lui qui est notre porte vers Dieu. » Tout comme les mesures de cette ville nous ont décrit une ville immense, de nombreuses pierres précieuses et l'or transparent expriment la valeur immense, la valeur précieuse de cette ville aux yeux même de Dieu. La ville est magnifique, nous dit un commentateur, au-delà de toute description. Elle est l'habitation éternelle de Dieu et de son peuple. Le langage utilisé pour la décrire ne cesse de chercher à surpasser ses limites, essayant de faire justice à la réalité glorieuse qu'il ne peut que décrire d'une manière imparfaite. Quelle conclusion pouvons-nous en tirer de ce passage ? Je dirais qu'il y a trois vérités à considérer en étudiant ce passage. Tout d'abord, cette vision et celle qui précède nous montre l'unité, 15e mot sur la feuille, l'unité, le fonctionnement de l'Écriture. Nous avons dit au début que Moïse est monté sur une montagne, qu'il a reçu les plans du tabernacle pendant le premier exode. Ézéchiel a connu une expérience similaire quand il a anticipé le deuxième exode, à savoir le retour d'Israël de la captivité en Babylone. Et maintenant, Jean est emmené en esprit sur une montagne à la lumière du dernier exode, quand le Seigneur Jésus-Christ revient et que son peuple entre dans la gloire finale. Alors, bien sûr, certaines personnes ont souligné qu'il y a beaucoup de différences entre ces visions, entre la vision de Moïse, celle d'Ézéchiel et bien celle de l'apôtre Jean. La vision d'Ézéchiel, nous avons lu tout à l'heure, est dominée par cette nouvelle construction détaillée du temple. Alors que dans la vision de Jean, nous verrons cela, Dieu voulant, la prochaine fois, verset 22, il n'y a pas de temple. Pourquoi ? Parce que toute la ville est le lieu très saint. Toute la ville est le lieu très saint. Toute la ville est l'habitation de Dieu au milieu de son peuple. Il y a donc cette première différence. Il y a le temple dans la vision d'Ézéchiel, à des chambres, des barrières entre les purs et les impurs. La vision de Jean, qui nous parle donc du peuple de Dieu dans la gloire, où il n'y a plus de péché, montre une ville qui est sans barrière. La gloire de Dieu traverse toute la ville, comme un verre transparent. Encore une différence. Mais ces différences correspondent aux différents moments où ces visions sont données dans l'histoire du salut. Dieu œuvre dans l'accomplissement de son dessein de rédemption. Chaque vision a un rôle bien précis au moment où il est donné, 16e mot sur la feuille. Mais dans toutes ces visions, la théologie est la même. Dieu est le même. Le problème est le même. Toujours le problème du péché. La réponse est toujours la même. Le salut vient par le Seigneur Jésus-Christ, par ce substitut qui doit mourir et faire l'expiation du péché. Et nous sommes dans cette histoire où Dieu a dévoilé progressivement, révélé son salut. Nous sommes dans cette histoire et nous avons cette même parole que Dieu nous a donnée. Et c'est par cette parole qui nous présente le seul chemin du salut, le salut par la foi en Jésus-Christ. Ces visions donc montrent la merveilleuse unité de la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est que ces visions nous montrent comment voir les thèmes de la Bible à la lumière de leur accomplissement en Jésus-Christ. 17e mot sur la feuille. Qu'est-ce que Dieu a accompli? Quand on lit l'Ancien Testament, nous le lisons aujourd'hui avec une meilleure révélation. Mais on doit se demander, mais comment ces choses annonçaient-ils, préféraient-elles ce que Dieu allait accomplir? Et cette vision de la Nouvelle Jérusalem, de cette ville éternelle, nous donne la réponse. Ça peut en citer quelques exemples. On parle du tabernacle. Et d'une certaine manière, c'est plutôt déprimant dans l'Ancien Testament. Voilà le tabernacle, avec ses dorures, ses parures. C'est là où la gloire de Dieu habite. Oui, mais vous n'avez pas le droit d'y entrer. Vous ne pouvez pas entrer dans ce lieu. Et même ceux qui avaient le droit d'entrer dans ce lieu ne pouvaient pas voir le lieu très saint. Il y avait un voile de séparation. Il y a la gloire du Dieu très saint. La gloire d'un Dieu qui vous aime, mais vous ne pouvez pas entrer dans sa présence. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans sa présence parce que vous êtes pécheur. Et le problème de la c'est le problème de la culpabilité du pécheur, du péché, pardon. Comment est-ce que cela change avec la venue du Seigneur Jésus-Christ? Le voile de séparation a été déchiré lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Le voile de séparation a été déchiré. Le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir tout ce qui a été promis. Il est venu enlever ce terrible problème de la culpabilité du péché de l'homme devant un Dieu saint. Dans la vision d'Ézéchiel, dans la vision du temple donnée à Ézéchiel, nous avons ces barrières entre les Juifs et les étrangers. Cette séparation. Cela donne l'impression que le salut est restreint. C'est un grand temple, oui, mais par contre, c'est un petit nombre qui est autorisé à entrer. Paul nous dit qu'en Christ, le mur de séparation a été enlevé. Éphésiens 2, 14. Car il, Christ, est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. L'œuvre du Seigneur Jésus-Christ va amener des gens de toute langue, de toute tribu, de toute ethnie, de toute expérience humaine, de toute origine, pour faire un peuple. En Christ, nous sommes un. En Christ, nous sommes un peuple, le peuple de Dieu. La venue du Seigneur Jésus-Christ a enlevé la culpabilité du péché, mais aussi la division causée par le péché. Et la vision de Jean nous montre que la venue du Seigneur Jésus-Christ va enlever aussi la présence même du péché. La ville entière brille de la lumière de la présence de glorieuse de Dieu. Toute la ville brille. Alors bien sûr, on peut se demander, mais en quoi est-ce que cela est important pour moi? Et la réponse est, si j'appartiens à Dieu, si je suis réconcilié à Dieu par la foi en Jésus-Christ, Dieu est à l'œuvre dans ma vie aujourd'hui pour me préparer pour ce jour, pour me préparer pour la gloire. Il me prépare pour que je sois un jour avec lui. Il a enlevé notre culpabilité pour que nous n'ayons pas à craindre la présence de Dieu, pour que nous puissions entrer avec lui, sachant que nous sommes réconciliés avec lui par le Seigneur Jésus-Christ. Il a enlevé la séparation du péché dans nos relations. Et il enlève le péché lui-même. Il l'enlèvera de manière parfaite au jour où nous serons avec lui et que nous serons dans la gloire pour l'éternité. Il œuvre en nous pour que nous portions l'image de la splendeur de sa gloire. Mais la troisième leçon, la troisième chose à souligner, et nous l'avons déjà dit, mais c'est bien de le redire encore une fois, c'est que la demeure éternelle de Dieu, ce n'est pas un lieu, c'est son peuple. 19e mot sur la feuille. Alors cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'après le retour de Christ, il n'y a pas de royaume physique. Bien sûr, il y en a, puisqu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais le symbolisme de cette vision ne dit pas simplement qu'il y a un lieu à la fin où le peuple de Dieu habitera. Ce symbolisme nous dit que le peuple de Dieu est le lieu où Dieu habitera. Le peuple de Dieu est. C'est lui qui forme ce cube. Et c'est une vérité importante à souligner, à nous rappeler. Parce que nous nous réjouissons, bien sûr, des grandes vérités de la justification par la foi, de l'imputation de la justice de Christ à notre compte. Moi, qui suis pécheur, je suis accepté par Dieu trois fois saint. Je suis réconcilié avec lui par le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des vérités merveilleuses. Mais beaucoup oublient que, en étant justifié, cela veut aussi dire que Dieu vient habiter en nous. Il vient habiter en nous. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous sommes appelés à refléter cela par notre vie. Nous avons été mis à part. L'apôtre Paul le résumera par exemple en Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce qui se passe dans la vie du croyant. Christ est à l'œuvre dans ma vie et il habite en moi. Et cette vision nous rappelle, nous assure que le jour vient où nous serons revêtus de la splendeur du Fils, de la gloire de Dieu. Et cette gloire nous entourera et nous serons l'habitation appropriée de Dieu pour l'éternité. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui ? C'est que Dieu travaille cette gloire, 20e mot sur la feuille. Il travaille cette gloire dans nos vies. Il nous défie d'avoir une conduite plus sainte. Sa parole vient à nous et son esprit nous convainc de rechercher la sainteté dans tout ce que nous faisons. Et il le fait pour nous préparer pour la gloire. C'est l'appel glorieux de la vie chrétienne. Que Dieu nous transforme pour ce jour où nous le verrons face à face et que nous serons dans sa présence pour toujours. C'est vrai que nous sommes tellement occupés par ce que nous avons à faire tous les jours. Nous avons des responsabilités professionnelles, des responsabilités familiales. Et il est bien d'agir et de vivre ainsi. Mais nous ne devons pas oublier que tout ce pourquoi nous travaillons dans ce monde, tout cela va disparaître. Tout cela a une fin. Et ce qui compte, c'est notre relation avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, ce qui définit notre identité. Ce n'est pas ce que nous accomplissons, c'est qui nous sommes par rapport à Dieu. C'est qui nous sommes par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Et si nous prenons conscience que ce qui définit ce que nous sommes, c'est notre relation. C'était le 21e mot, pardon, sur la feuille. Et si nous prenons conscience que l'histoire se dirige vers sa conclusion et le retour du Seigneur Jésus-Christ, alors les choses de ce monde vont pâlir à nos yeux. Et nous demanderons à Dieu de nous rendre toujours plus transparents afin que sa gloire soit vue même dans notre vie. Comment prendre conscience de l'importance de notre relation avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ? En contemplant sa beauté, en contemplant qui il est, en contemplant son œuvre. Et c'est ce que Jean veut faire dans ce passage. Il nous expose à la gloire de Dieu, à cette gloire que Dieu veut refléter en nous, qu'il va refléter après le jugement, pendant l'éternité, mais qu'il veut déjà refléter en nous ici-bas. Il veut nous amener à aimer la vérité. Et c'est important dans une société qui s'est engagée dans son autodestruction. Nous sommes appelés à être différents. L'Église est appelée à être différente. 22e mot sur la feuille. Nous sommes appelés à être différents dans ce monde, non pas être modelés par ce monde, mais être modelés par la beauté, la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui nous sommes par notre union avec lui et de notre destinée, qui est cette gloire éternelle. Et tout ce que nous ferons avec cette vision, nous le ferons en désirant d'être vrai, d'être carré, de porter la marque de la beauté de Dieu. Nous vivons dans un temps où les opposants de la Bible décrivent Dieu comme sectaire et ils vont dire que le message de la Bible est un message de haine. Mais laissons ces gens-là rencontrer de vrais croyants, de vrais enfants de Dieu. Laissons-les venir dans une assemblée qui est fidèle à la parole de Dieu. Laissons-les découvrir les reflets de la beauté, de la gloire de Dieu qui agit par sa parole et qui agit dans la vie de ses enfants, déjà maintenant. Laissons ses opposants voir en pratique ce que veut dire être un vrai croyant. Et que Dieu, dans sa grâce, nous donne, nous fasse que ses opposants apprennent de nous que le Dieu de la Bible est rempli de gloire, qu'il est rempli de bonté, qu'il est rempli de vérité et qu'il est un Dieu de grâce en Jésus-Christ. Que Dieu nous donne sa grâce et qu'il reflète sa gloire dans nos vies, afin que nous l'honorions et que nous soyons ses témoins dans ce monde de ténèbres. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.